en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le 3 mai 2010, l'historien Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France, a prononcé une communication à l'Académie des sciences morales et politiques intitulée « La myopie démocratique, comment y remédier ?». Canal Académie vous propose d'en écouter la retransmission.
Je voudrais vous présenter quelques réflexions sur les questions du long terme en démocratie, mais les inscrire dans une réflexion plus générale sur le pluralisme démocratique. Nous pouvons tous aujourd'hui constater que les régimes démocratiques ont du mal à intégrer le souci du long terme dans leur fonctionnement. Et la difficulté devient effectivement préoccupante à l'heure où les questions de l'environnement et du climat obligent à penser dans des termes inédits nos obligations vis-à-vis des générations futures. Mais cette difficulté, l'historien doit le souligner d'emblée, n'a rien d'inédit. Dès les débuts de la Révolution française, Condorcet attirait ainsi l'attention sur les dangers de ce qu'il appelait une démocratie immédiate. Et le philosophe redoutait en particulier que la gestion des finances publiques soit dominée par les errements d'une action au jour le jour. Et c'est pourquoi Condorcet invitait en conséquence à soustraire à l'influence du pouvoir exécutif la garde du trésor public. Il voulait, Condorcet, que le gardien du trésor public ne soit pas sous la main du pouvoir exécutif. En effet, une sorte de préférence pour le présent a marqué continuellement l'horizon politique des démocraties. Tout le monde connaît la formule célèbre de Rabault-Saint-Étienne, « L'histoire n'est pas notre code ». Et effectivement, on peut dire que la démocratie s'est définie comme une préférence pour le présent. Il y a des raisons structurelles à cela qui dérivent cette préférence pour le présent à l'évidence de comportements qui sont dictés par les rythmes électoraux ou les impératifs sondagiers. Et de fait, la course essoufflée au court terme est d'abord fille des conditions d'exercice de la lutte pour le pouvoir. Il est ainsi banal d'opposer les idéotypes du politicien qui ne se préoccuperait que de la prochaine échéance électorale et celle de l'homme d'État, qui aurait au contraire l'œil fixé sur un horizon plus lointain. Mais les choses sont en fait plus compliquées. La myopie des démocraties a, me semble-t-il, des causes plus structurelles. Il faut d'abord se rappeler qu'elles n'ont pu faire leur chemin qu'en s'arrachant aux puissances de la tradition et en légitimant, justement, ces droits du présent pour ne pas se laisser emprisonner dans une temporalité prédéterminée. Selon la formule de Jefferson, la terre appartient aux vivants. Il employait cette expression pour dénoncer l'idée même d'une précontrainte qui serait fixée à l'exercice de la volonté générale. Rousseau lui-même avait la formule que l'on connaît bien, il est absurde que la volonté se donne des chaînes pour l'avenir. Mais dans le monde post-révolutionnaire d'aujourd'hui, plus aucune religion séculière ne peut en outre conduire à donner sens à l'action collective, en la rapportant prioritairement à une lointaine expérience. Je rappelle la formule de Tocqueville. Tocqueville disait « Le propre des religions est qu'elles donnent l'habitude de se comporter en vue de l'avenir ». Effectivement, un monde sans religion est aussi un monde qui ne se comporte plus en fonction de l'avenir. Et le long terme, effectivement, était autrefois toujours associé à l'idée d'un salut. Les impératifs de la sécularisation et ceux d'une expression autonome de la volonté générale se sont de la sorte superposés pour borner l'horizon temporel des démocraties. Et leurs critiques n'ont pas manqué de souligner depuis longtemps ce qui était jugé comme une infirmité congénitale. Et Tocqueville considérait sur cette base que les régimes démocratiques étaient, je le cite, « décidément inférieurs aux autres » dans la direction des intérêts extérieurs de la société. Une politique étrangère digne de ce nom, impliquant par définition la capacité de rapporter des actions quotidiennes à une perspective inscrite dans la longue durée. Tocqueville commentait « La politique extérieure n'exige l'usage de presque aucune des qualités qui sont propres à la démocratie et commande au contraire le développement de presque toutes celles qui lui manque. Et il opposait, en continuité avec cette formulation, la myopie du corps démocratique à la vision du long terme qui pouvait caractériser un corps aristocratique se définissant comme un corps éclairé qui ne meurt jamais. Et on peut rappeler aussi qu'à l'inverse de cette cécité et de cette myopie ont été stigmatisées l'incapacité des démocraties par certains, à l'inverse, à gérer le présent des circonstances exceptionnelles. Alors qu'un Tocqueville accusait les démocraties de ne pas savoir regarder l'horizon assez lointain, un Carl Schmitt instruira le procès en impuissance des démocraties pour ne pas savoir trancher dans l'urgence, freinées qu'elles sont supposées être par la nécessité d'une délibération collective. Entre une critique décisionniste et la dénonciation du penchant court-termiste, les démocraties ont ainsi souvent été décrites comme temporellement dysfonctionnelles. Mais je voudrais suggérer que cette analyse de la dysfonctionnalité temporelle des démocraties doit être considérée dans un régime plus général des dysfonctionnalités démocratiques. Et je voudrais vous présenter une rapide, non pas théorie, mais un cadre général d'analyse des dysfonctionnalités de la démocratie. Effectivement, la plupart des théoriciens de la démocratie ont fait ce que j'appellerais une théorie de la démocratie polarisée, c'est-à-dire ont considéré la démocratie comme un régime de l'immédiateté, la démocratie comme un régime de l'expression directe et la démocratie comme un régime du sujet moniste, le peuple pris dans son ensemble. Or, il est impossible, pour des raisons à la fois techniques et philosophiques, de construire une vision solide de la démocratie polarisée. Le premier à avoir fait une théorie de l'immédiateté a été Condorcet. La notion même de démocratie immédiate, c'est d'ailleurs lui qui l'a forgée dans un texte pré-révolutionnaire de 1788. Et au XIXe siècle, au moment où la question des temporalités de la démocratie était fortement discutée, dans les années, à la fin des années 1860 et au début des années 1870, c'est Renan qui, dans une formulation célèbre, a dit que l'on ne peut pas confondre la démocratie avec le caprice de l'instant. Et pourquoi ne peut-on pas confondre la démocratie avec le caprice de l'instant ? Parce que la démocratie n'est pas simplement un régime de la décision, la démocratie est un régime de la volonté. La décision est une catégorie de l'immédiateté. La volonté n'est pas une catégorie de l'immédiateté. La décision n'absorbe pas la volonté. La volonté n'existe que comme une forme historique. La volonté, elle n'existe comme effort. La volonté, elle n'existe comme durée. La volonté, elle n'existe comme investissement. Et pour cela, si l'on confond la démocratie avec un régime de la nomination, simplement, ou avec un régime de la décision, eh bien, on ne peut pas la comprendre comme un régime de la volonté inscrite dans la durée. Et dire que la démocratie n'est pas simplement un régime de la décision, mais qu'elle est un régime de la volonté inscrit dans la durée, veut dire que les institutions de la démocratie ne peuvent pas simplement être des institutions de la décision et de la nomination. Et que donc, des institutions de la démocratie doivent être aussi des institutions inscrites dans le temps et dans la durée. Cette question de l'inscription des institutions de la démocratie dans le temps et dans la durée a été un thème très réfléchi au moment des révolutions américaines et des révolutions françaises. À ce moment-là, en effet, vous le savez, c'est notamment le fait d'un théoricien comme Sieyès en France, il a essayé de définir les conditions dans lesquelles on pouvait considérer qu'il y avait une sorte de nécessaire mise en place de gardien du long terme dans les démocraties. Et comment articuler un pouvoir exécutif et des gardiens du long terme, ce sujet très fortement présent pendant la Révolution française, a hélas été très oublié alors qu'il revient aujourd'hui à l'ordre du jour directement. Longtemps, cette question de la dualité des temporalités de la démocratie n'a pas été complètement perceptible, car en fait, il y avait un gardien du long terme, qui n'était pas le gardien démocratique, mais qui était tout simplement l'état de service public. Et c'est l'état de service public qui était le gardien du long terme. Il y avait une formule que Simon Nora a employée dans un article très intéressant qu'il a donné il y a une vingtaine d'années au débat, où il disait « Ma génération, lorsque nous sommes arrivés aux affaires en 1945, nous avions le sentiment d'être des prêtres du long terme. » Et effectivement, toute une génération de hauts fonctionnaires s'est définie dans ces années-là, hélas, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais s'est définie en tout cas dans ces années-là, comme des gardiens et des serviteurs du long terme. Il y avait cette tension entre les serviteurs du court terme, si je puis dire, et les serviteurs du long terme. Tension entre les institutions de la démocratie parlementaire et les institutions de l'État de service public, les deux ne se superposant pas. Une impossible démocratie polarisée, c'est aussi parce qu'une impossibilité de la démocratie directe. Là, il faut réfléchir à ce que signifie le gouvernement représentatif. Il y a eu traditionnellement deux définitions du gouvernement représentatif. Le gouvernement représentatif a pu être considéré comme un substitut technique à une impossible démocratie directe, puisque dans une société de grande dimension, la démocratie directe est impossible, eh bien, il faut des interfaces techniques, en quelque sorte. Donc, c'est une définition technique du gouvernement représentatif qui présupposerait que s'il y avait les possibilités, à cause de la taille d'un groupe, de s'orienter vers une démocratie directe, elle serait naturellement préférable. Il y a eu une deuxième définition classique du gouvernement représentatif, très fortement défendue par les fédéralistes aux États-Unis, par exemple, et défendue par CIA aussi en France, qui considérait que le gouvernement représentatif n'était pas du tout un substitut à la démocratie directe, mais que le gouvernement représentatif était une technologie destinée à sortir de la société son élite. Donc c'était une technologie de sélection de l'aristocratie naturelle, pour employer une expression fameuse de Madison. Mais on peut considérer qu'il y a aussi une troisième définition possible du gouvernement représentatif. Et c'est celle qu'a essayé de théoriser et de développer Sieyès. C'est que le gouvernement représentatif doit également être un ensemble de procédures d'ordre cognitif. Le gouvernement représentatif doit représenter un ensemble de procédures de démultiplication de la représentation. Car la représentation ne peut jamais être une représentation générale de la société. La représentation, elle est toujours partielle. Elle est toujours la représentation de groupes particuliers. Elle est la représentation d'une majorité et la représentation d'un instant. Et donc, la vraie représentation de la société doit démultiplier, en quelque sorte, les sujets de la politique. Et l'idée de Condorcet était de dire que le peuple n'est jamais un, mais que le peuple est toujours multiple. Le peuple au singulier n'existe pas. Il n'existe que des populations, il n'existe que des électeurs, il n'existe que des groupes, il n'existe que des sensibilités, il n'existe que des réactions, il n'existe que des peurs, il n'existe que des enthousiasmes. Mais il n'existe jamais un sujet moniste qui s'appellerait le peuple et que quelqu'un pourrait adéquatement représenter parce qu'il l'incarnerait. Il n'y a pas de vérité du peuple hors d'une théorie de l'incarnation. Or, effectivement, en politique, les théories de l'incarnation ont compté, mais les théories de l'incarnation ne sont justement pas des théories de la représentation. La représentation, d'un certain point de vue, cherche à lutter contre les théories de l'incarnation, puisque les théories de l'incarnation prétendent posséder la vérité de la société et pouvoir l'enfermer dans une formule, dans une vérité ou dans une forme quelconque. Et à ce moment-là, on peut dire que la véritable définition de l'incarnation n'est pas celle de Louis XIV disant « l'État, c'est moi », mais c'est celle de Trotsky constatant en ricanant en voyant Staline, il est beaucoup plus fort que Louis XIV parce que lui, il est capable de dire « la société, c'est moi ». Et effectivement, celui qui dit « la société, c'est moi » définit un pouvoir d'incarnation. Mais si la démocratie directe n'est pas possible, ce n'est pas simplement pour ces raisons techniques et ces raisons philosophiques, c'est aussi parce qu'il y a toujours besoin d'interface pour mettre en forme la politique. En 1848, il y a eu un débat très intéressant qui recoupe le débat qui a lieu actuellement sur le problème des primaires. C'est de savoir comment organiser les premières élections au suffrage universel, celles du jour de Pâques 1848, en avril 1848. Et à ce moment-là, il y a eu l'idée que pour faire une élection démocratique, il fallait choisir démocratiquement les candidats. Mais comment choisir démocratiquement des candidats? Eh bien, de rassembler tous les électeurs. Et donc, il y a eu cette idée qu'il fallait d'abord rassembler tous les électeurs et que tous les électeurs rassemblés nomment leurs candidats et que les candidats de tous les électeurs rassemblés ayant été nommés, on pouvait à ce moment-là voter. Et on a bien constaté rapidement que c'était utopique, qu'on ne pouvait pas faire une double élection, comme s'il y avait une première élection simplement procédurale et une autre élection qui serait de l'ordre d'une décision. Cela signifie une chose très importante, c'est que dans la démocratie, il faut toujours des institutions et des pouvoirs d'interface, de mise en forme. Il faut toujours qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler sociologiquement des tiers organisateurs. Il faut qu'il y ait toujours des puissances réflexives dans une démocratie, des puissances qui aident à considérer des intérêts, qui aident à considérer des conflits, qui jouent en quelque sorte à la fois un rôle d'interface, mais aussi un rôle cognitif de miroir. Et pour cette raison-là, on peut dire que la démocratie indirecte est supérieure à la démocratie directe, que la démocratie représentative ainsi définie est très supérieure à la démocratie directe. La démocratie directe peut être une des modalités d'expression de la démocratie. Elle peut notamment être une des modalités de l'expression de la démocratie dans des moments de tension, dans des moments de conflit, où il faut soudain trancher, où on n'est plus dans un monde de la réflexivité, mais où on entre dans un monde de la décision. Le moment du référendum n'est plus un moment d'expression de la volonté, c'est un moment d'expression de la décision majoritaire. Une décision, elle tranche immédiatement. Elle n'est pas inscrite dans un moment de la réflexivité. Une démocratie polarisée, c'est donc l'utopie d'une démocratie immédiate, l'utopie d'une démocratie directe, mais aussi l'utopie d'une démocratie une, c'est-à-dire un peuple simple que l'on pourrait posséder. Or, on peut au moins distinguer deux catégories de peuples, deux formes juridiques du peuple. Le peuple électoral, qui est le plus immédiat, parce que lui, il se compte. Il se compte et il est aisé à dénombrer. Il est aisé à connaître et comprendre sous les espèces d'une catégorie bien particulière, mais d'une catégorie qui existe avec une puissance matérielle et mécanique formidable, qui est celle de la majorité. Mais il y a au moins aussi une autre catégorie de peuple, celle que j'appellerais du peuple principe. C'est le peuple qui n'est pas simplement défini par son expression, mais le peuple qui est défini par les principes qui l'organisent. Et ces principes qui l'organisent, le peuple, c'est tout simplement les droits fondamentaux. Ce sont tout simplement les principes organisateurs de la vie sociale et de la vie collective. Et de la même façon que la démocratie polarisée avait une utopie de l'immédiateté et une utopie de la démocratie directe, elle a également une utopie de l'expression une du peuple. Or, il faut trouver les moyens d'exprimer dans ces différentes composantes qui sont au moins cette distinction entre le peuple électoral et le peuple principe. Cela signifie que la meilleure définition que l'on puisse donner de la démocratie est non pas la recherche d'une démocratie simple, mais la recherche d'une démocratie compliquée. Beaucoup de théoriciens de la démocratie, au fond, ont recherché la formule d'une démocratie simple. Quel est le bon mode d'expression populaire? Quelle est la bonne temporalité? Quelle est la bonne forme? En suivant Condorcet, je dirais plutôt que pour aimer la démocratie, il faut non pas chercher sa bonne formule, mais compliquer ces formules tout imparfaites. Et c'est plutôt une complication des formules tout imparfaites qu'il faut viser que celle d'un perfectionnement de la formule parfaite. Tout le monde sait que si l'on regarde, par exemple, l'histoire du mandat électoral, on pourrait rêver d'une sorte de mandat électoral qui serait de compte-rendu de mandat parfaitement rendu, etc. On sait que ça ne peut jamais être parfaitement le cas. Et donc, ça n'est pas la démocratie du « one best way », mais la démocratie des voix plurielles dans ses temporalités, dans ses formes et dans ses sujets qu'il faut défendre. Cela signifie quelque chose de très important. Cela veut dire que ce qu'il y a de plus proche de la démocratie directe, c'est la multiplication des formes de démocratie indirecte. Ce qu'il y a de plus proche de la démocratie complexe, c'est la multiplication des formes de temporalité. C'est la multiplication des définitions de la représentation, non pas simplement comme mandat, mais également comme processus cognitif et comme processus réflexif. Cela signifie en outre que la démocratie ne peut pas simplement se définir par l'élection. Si la définition de la démocratie est le régime de la volonté générale ou le régime de l'intérêt général, l'intérêt général et la volonté générale sont susceptibles de définitions très différentes. Elles seraient susceptibles d'une définition unifiée s'il y avait les formes d'expression unanimes de la société, s'il y avait des formes d'expression unanimes et continues. Or, nous ne connaissons pas d'organisation sociale qui ait manifesté une forme d'expression unanime et continue du sentiment collectif. Cela signifie donc que l'on doit donner toujours des définitions imparfaites de l'intérêt général et de la volonté générale. Une façon approchée de parler de la volonté générale, c'est évidemment, parce que là c'est quelque chose qui se calcule et qui se mesure, c'est de l'approcher à partir de la catégorie de majorité. Mais il y a aussi des façons négatives d'approcher la volonté générale. On peut dire que la volonté générale, c'est ce dont personne ne peut se prétendre seul le propriétaire. Et à ce moment-là, ce sera une catégorie comme celle d'impartialité qui définira la volonté générale. La volonté générale sera une souveraineté négative. Cette catégorie de la souveraineté négative, j'y insiste, a été considérée comme essentielle dans toute la théorie politique classique. Toute la théorie politique classique a considéré que la souveraineté n'était pas simplement la possibilité de faire, mais aussi la capacité d'empêcher. Cette distinction entre le pouvoir de faire et le pouvoir d'empêcher est très classique, bien sûr, chez un auteur comme Montesquieu. Mais il l'était encore plus dans la théologie politique médiévale. Il l'était encore plus aussi dans les théories politiques de la Renaissance, très fortement liées à toute la théorie du pouvoir de résistance. Eh bien, aujourd'hui, dans nos sociétés, il faut aussi redonner consistance à ces définitions plus compliquées de l'intérêt général, qui impliquent, à côté de l'expression du pouvoir majoritaire, la mise en place d'institutions d'impartialité. On peut dire que la démocratie doit être construite dans un équilibre entre des institutions nécessairement majoritaires et des institutions de consensus. Les institutions majoritaires, elles sont nécessaires pour des raisons de gouvernabilité. S'il fallait attendre l'unanimité pour décider, aucun gouvernement ne serait jamais possible. Donc la majorité est le régime, je dirais, du fonctionnement raisonnable d'une collectivité. Et en même temps, elle n'est pas simplement le fonctionnement raisonnable, elle est le fonctionnement naturel, parce qu'une collectivité doit aussi trancher entre des points de vue différents. Et le principe de majorité n'est pas simplement une façon arithmétique d'approcher une vérité quantitative supérieure. Le principe de majorité, il est aussi un principe d'arbitrage et de décision nécessaire. Mais en même temps que la démocratie est un régime, de ce point de vue-là, du conflit et qu'un régime de la distinction des intérêts, la démocratie doit être aussi un régime de la vie commune et donc du consensus et de l'unanimité. Ce dont nous souffrons actuellement, me semble-t-il, dans la plupart des démocraties, c'est de ne pas avoir suffisamment saisi ensemble le lien nécessaire qu'il y a entre des institutions conflictuelles majoritaires et des institutions qui servent le consensus. C'est quelque chose qui avait été réfléchi au moment des révolutions françaises et américaines. Si on avait mis en place dans le Vermont et en Pennsylvanie un conseil des censeurs, c'était justement pour que cette dualité soit représentée. Et l'idée même du tribunat, qui est due en partie à Benjamin Constant, cette idée de Sieyès également, l'idée du tribunat correspondait aussi à la mise en place d'une dualité entre les institutions de la majorité et les institutions du consensus. Envisager la démocratie de cette façon, me semble-t-il, au-delà du point de départ qui m'avait été donné, celui des institutions du long terme, c'est-à-dire de la façon de prendre en compte le long terme dans le fonctionnement des démocraties, montre une chose fondamentale, me semble-t-il, aujourd'hui. C'est que le progrès démocratique ne peut pas simplement être une amélioration de la vie électorale représentative, mais qu'elle implique de développer les institutions d'impartialité et qu'elle implique aussi de développer une autre chose, une autre vision très importante du pouvoir d'empêcher. Le pouvoir d'empêcher, il a un nom aujourd'hui dans les démocraties, c'est la défiance. Mais la défiance n'est pas simplement un sentiment destructeur des démocraties. La défiance est un sentiment destructeur des démocraties quand la défiance est simplement une façon de vilipender le pouvoir, de considérer que le pouvoir est nécessairement usurpateur, extérieur à la société. Mais le fait de considérer que tout pouvoir doit être mis sous surveillance, tout pouvoir doit être contrôlé, tout pouvoir doit être donner des preuves permanentes de son action. À ce moment-là, cette défiance, elle est constructive d'une vitalité démocratique et pas simplement destructive de celle-ci. Il me semble donc, pour résumer les choses, que face à une vision polarisée de la démocratie, face à une vision moniste, immédiate, directe de la démocratie, nous devons aujourd'hui considérer qu'il y a une attente dans nos sociétés pour une démocratie qui ne soit plus simplement porteuse, je dirais, du sentiment immédiat et flottant de l'opinion, une démocratie qui fasse la distinction entre le pouvoir de l'opinion et le pouvoir de la volonté, c'est une démocratie qui fait la distinction, justement, entre l'immédiateté et le long terme, qui fait la distinction entre la décision et la volonté, et qui fait en même temps la distinction entre l'intérêt immédiat et l'intérêt général. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre Pierre-Rosan Vallon, historien et professeur au Collège de France, qui prononçait une communication devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques le 3 mai 2010. Sa communication s'intitulait « La myopie démocratique, comment y remédier ?»